Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Comme d'habitude, je suis avec Charles Gave et aujourd'hui nous allons utiliser l'actualité pour ressortir un vieux papier qui est pas si vieux que ça, qui a 2 ans et demi, je crois,
3 ans, oui,
il me
voilà.
semble, de juin 2023, si je dis pas de bêtises. Un papier qui s'appelle Réussir sa désindustrialisation, qui fait presque 30 pages et qui est disponible de façon gratuite sur le site de l'Institut des Libertés. Vous avez qu'à taper sur Google Réussir sa désindustrialisation, ce sera le premier résultat. Je mettrai de toute façon le lien en description aussi. Et j'utilise l'actualité, à savoir la question de la liquidation de Brandt, pour reparler de ce papier. Pourquoi? Parce que la marque française Brandt, donc marque d'électroménager assez ancienne, créée en 1924, est mise en liquidation judiciaire, c'est-à-dire qu'elle fait faillite et que personne ne va reprendre a priori, sauf si le ministre de l'industrie tente de raviver la chose. Alors le seul plan actuellement, pas qui tient la route, mais qui juste a le mérite d'exister, c'est le plan de la SCOR, c'est-à-dire que en fait ça transformerait l'entreprise en coopérative. D'ailleurs, au passage, l'entreprise c'est un peu plus de 700 salariés, 750 je crois, et même ce plan-là, qui est malgré tout assez optimiste par rapport au néant, on va dire, prévoit quand même de licencier la moitié de l'effectif. Donc on se retrouverait déjà avec 350 salariés. Alors, c'est quoi cette histoire de Brandt? Pourquoi en fait une entreprise comme ça fait faillite en France?
Ben, si vous voulez, ça me rappelle toujours la formule de Ronald Reagan sur la gauche. Si vous voulez, qui dit que la gauche, elle est si quelque chose bouge, elle le taxe. Si ça ralentit, il le subventionne. Et si ça le finit par faire faillite, il le nationalise. Vous avez tout fait depuis 40, 50 ans, c'est ce que je montre dans ce dossier, parce que ça n'a pas cessé pour que la rentabilité des affaires industrielles en France soit à peu près la moitié ou les deux tiers de ce qu'elles sont en Allemagne et dans tous les autres pays normaux. Et donc, si vous avez tout fait pour mettre les affaires industrielles en faillite, depuis la hausse inconsidérée des prix de l'énergie, les machins écologiques, etc. Vous pouvez pas vous étonner si, dans le fond, les affaires industrielles font faillite en France. Mmh. Et ce que j'ai essayé de montrer dans un certain nombre d'autres papiers, c'est qu'on a une industrie, une très belle industrie en France. Hein.
Oui.
Seb en est un exemple, par exemple. Mmh. Eux, ils ont réussi à maintenir des usines en France, mais enfin, des gens comme Air Liquide, Schneider, ils ont encore un petit peu d'industrie ici, mais plus grand-chose. Et je vais poser une seule question à ceux qui nous écoutent. C'est si faire des machines à laver et des machines à laver le linge, c'est deux fois moins rentable en France que, je sais pas, de l'autre côté de la frontière, dans le Rhin, ou quatre fois moins rentable qu'en Turquie, qui est pas bien loin, ou cinq ou six fois moins rentable qu'au Maroc. Pourquoi faudrait-il faire des machines industrielles qui ne marchent pas en France? Quelle est la justification? Est-ce que le fait que, quand... Vous savez, moi, quand j'étais jeune, j'avais dit aux enfants, qui étaient petits à l'époque, alors on va se répartir le travail, vous mettrez la vaisselle dans la machine à laver, c'est lavé, vous rangez bientôt, et puis moi je tournerai le bouton. Hein, bon, j'imagine que c'était peut-être une branle, j'en sais rien, mais... Si vous faites tout pour empêcher l'emploi industriel parce que c'est sale, parce que j'en sais rien, ben, vous avez ce que vous méritez, non? C'est le pauvre gars de Brandt, je ne doute pas. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est qu'ils sont plus que 700.
Oui.
700 pour une marque internationale, quand je sais que BYD a plus d'employés dans le secteur de la recherche en Chine que Volkswagen, que BMW n'a d'employés en tout. Mmh. Donc, 700 employés, Qu'est-ce qu'il faisait? Il devait faire les pièces détachées pour les machines qui avaient été vendues il y a 20 ans, quoi, je sais pas.
Ouais, je sais pas du tout. Brandt produit techniquement des lave-vaisselle, des lave-linges, des sèches-linges, des réfrigérateurs, des congélateurs, des caves à vin, des cuisinières, des fours, des hottes, des micro-ondes, aussi des bouilloires, des grille-pains, des centrifugeuses, etc. C'est une entreprise qui est présente dans 36 pays, qui réalise 260 millions de chiffres d'affaires. Alors, à titre de comparaison, le Haier, qui est une marque chinoise, qui
Fait
autrefois
tout
est
ça.
Voilà, qui autrefois était bas de gamme, mais qui aujourd'hui est plutôt milieu de gamme, fait ce genre de chiffre d'affaires en 2 jours. Voilà. Brandt, c'est 260 millions d'euros par an de chiffre d'affaires. Haier, c'est 260 millions d'euros en 2 jours.
Et ces gens-là de Brandt auraient dû avoir des usines, je sais pas, en Malaisie, en Indonésie, ou des machins comme ça, pour essayer de faire survivre la branche, mais.
Et puis tenter d'exporter aussi
Mais
dans ces
d'exporter
pays-là.
dans
Parce
ces
que
pays-là.
100% de leur chiffre d'affaires, il est en Europe, 70% en France, 30% dans le reste de l'Europe. Je compare à Seb, par exemple. Seb, c'est 8 milliards de chiffre d'affaires. Et pour le coup, l'Europe, c'est ses plus gros clients, mais c'est que 45% de leur chiffre d'affaires.
Mais voilà, c'est de l'embarras. Alors vous avez des entreprises industrielles extraordinairement performantes qui existent en France, comme Seb, mais qu'une petite partie de leur chiffre d'affaires en France. Et puis vous en avez qui ont quasiment quitté le territoire. Et puis vous en avez qui sont restés les deux pieds dans le même sabot et qui se font massacrer. Ben, si j'ose dire, je crois qu'ils sont à Orléans, non?
Je sais
Je
plus.
crois qu'ils sont à Orléans, oui.
Ouais, ils doivent être dans ce coin-là. Je sais plus le nom
Bon,
du
mais
truc exactement.
je suis bien persuadé que tous les travailleurs d'Orléans, enfin que beaucoup de gens, que je vais peut-être dire une grosse bêtise, mais que François Mitterrand a eu des majorités deux fois dans le coin, quoi.
Oui, ce serait pas étonnant, oui.
Et donc, ben, si vous voulez, si vous élisez Mitterrand, vous vous étonnez pas d'être au chômage, quoi, c'est toujours pareil. Vous avez depuis l'arrivée de Mitterrand, le chômage qui était de 1 million est passé à 2, 3, 4 millions, puis il s'est jamais redressé. Parce qu'il a pris des mesures qui ont tué la rentabilité du capital investi en France. Donc voilà, bon, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Si les gens sont. Vous savez, vous avez un formant de face et vous crachez, vous le ramassez dans la figure, quoi, c'est pareil, quoi. Donc vous ne pouvez pas à la fois prétendre avoir les 35 heures, les trucs, le machin et tout, et ensuite avoir votre usine qui reste chez vous.
Oui, alors ce qui me frappe à chaque fois dans les propos tenus par le ministre de l'Industrie, c'est l'absence totale de toute notion de rentabilité. C'est-à-dire que déjà, l'État propose 5 milliards de 5 millions, pardon, pour aider le projet de reprise sous forme de coopérative. La région aussi, à hauteur de plus de 5 millions. Et le ministre, donc, demande l'aide aussi des banques et en appelle à leur patriotisme. C'est-à-dire, vous vous rendez compte, c'est 700 emplois, c'est une entreprise française, etc. Oui, d'accord, mais pourquoi les banques devraient-elles donner de l'argent, enfin, prêter de
À perte.
l'argent à perte?
Ben, elles doivent pas.
Elles n'ont aucun intérêt à le faire, en fait. Donc
Ben, c'est pas
pourquoi
qu'elles n'ont pas
les...
d'intérêt, elles ont le devoir de ne pas le faire, parce que
Oui.
si elles faisaient que ça, ben, les banques feraient faillite et à ce moment-là, les gens perdaient leurs dépôts, quoi.
Oui.
Donc, encore une fois, le rôle d'une entreprise, c'est de survivre. Sa principale fonction, c'est de survivre. Pour survivre, il faut qu'elle ait son indépendance financière.
Oui.
C'est exactement la même chose que ce qu'on dit à tous les gens de l'université de l'épargne qui ont bien voulu nous rejoindre. C'est, il faut que vous gériez votre épargne parce que ça vous permettra d'être libre. Comme on dit en anglais, happiness is a positive cash flow. Le bonheur, c'est d'avoir un cash flow positif. C'est-à-dire que quand vous avez un cash flow positif, tout le monde a la pêche dans l'entreprise. Parce que tout le monde se dit, ouais, on va pouvoir investir. Si vous avez un cash flow négatif, vous voyez les fonds prod baisser, baisser, baisser. Les plus malins commencent à chercher du boulot à l'extérieur, quoi.
Là, c'est exactement leur cas, hein. Alors, j'ai
Il
regardé
doit
les...
rester que les bons rien, quand j'en sais rien. Je veux pas
Je,
faire du mal
je...
à ces pauvres gens, mais.
Non, non, j'en sais rien, mais en l'occurrence, au niveau de la direction, il y a vraiment un problème. C'est une marque qui a pas du tout réussi à se positionner sur le marché. Moi, je me suis jamais vu acheter du Brandt ou quoi que ce soit. J'ai jamais
Mais
vu qui
Brandt,
que ce
ça date
soit
d'il y
acheter
a
du
30
Brandt.
ans. Il y avait parfois, quand les machines à laver la vaisselle sont sorties, les premières, il devait y avoir une ou deux marques allemandes, je sais plus comment ça s'appelait d'ailleurs. Et puis, il y avait Brandt, quoi. y avait, mais Brandt, c'était le machin français qu'on achetait parce que c'était un peu moins cher, quoi. Voilà, oui. Ça faisait office de ce qu'on achète aujourd'hui en Turquie, quoi.
Voilà, c'est ça. Sauf que, justement, cette zone-là de marché, elle a été totalement prise, bah, justement, par les Turcs, par d'autres marques européennes ou par les marques chinoises. Typiquement ailleurs, encore une fois, qui n'existait quasiment pas chez nous il y a 10 ans et qui a vraiment fait un beau petit bonhomme de chemin. Et aujourd'hui, je connais plein de gens qui achètent du ailleurs. Moi-même, j'en ai déjà acheté. Donc c'est une marque qui vraiment arrive à se faire une bonne réputation.
Et c'était fait la même. Je mangeais un truc. Je me souviens à un moment, c'était pour la télévision. Mm-hmm. Vous savez, pour les télévisions. Ouais. Je crois qu'il y avait un producteur de télévision qui devait plus ou moins appartenir à Thales ou je sais pas quoi, ben, qu'on a fermé, je crois, parce que par rapport aux télévisions coréennes plates ou n'importe quoi. La destruction créatrice de ce bon Schumpeter, c'est qu'il y a des gens plus efficaces que vous, et qui font des produits meilleurs que les vôtres, et surtout d'une nature différente quand il y a un changement technologique. Ben vous êtes cuit, quoi.
Oui. Oui,
c'est-à-dire qu'il y a un côté, comment dire, darwinien dans le capitalisme qui est tout à fait évident, mais ça ne veut pas dire que le côté, par exemple, un pays comme le Danemark, qui est un pays très compétitif, mm-hmm. accepte tout à fait le côté darwinien dans la réalité des faits, dans les affaires, et ensuite un système social extrêmement efficace pour reprendre les gens qui se cassent la gueule, enfin ouais. En particulier les employés. Et je cite toujours cet exemple que je trouve très bien, c'est que au 19e siècle, il y a eu l'arrivée des bateaux à vapeur. Donc ça a permis la vente de blé qui arrivait soit d'Argentine, soit des États-Unis, beaucoup moins cher que le blé qu'on faisait chez nous. Bon. Il y a eu 3 réponses en Europe. Hein. Les Anglais ont dit, bon, on va ouvrir nos frontières et tant pis pour les gens qui bossent dans l'agriculture. Ils sont tous partis en Australie, au Canada, partout. Donc, ben, les gens sont allés chercher du boulot ailleurs parce qu'ils avaient perdu une partie de l'heure. Bon, soit. Les Français, on a fermé les frontières. On n'a pas laissé rentrer ce blé. Et les Danois, ils ont acheté le blé pas cher, ils ont levé des cochons, ils ont exporté des cochons.
Ouais.
Ben, si vous voulez, moi, je trouve qu'il vaut beaucoup mieux toujours acheter le blé pas cher, le transformer en cochon.
Absolument.
Parce qu'au moins, ça vous donne plein de boulot. Ils ont un système. Les Hollandais ont fait pareil. Donc, cette histoire de... On va subventionner pour faire rester en vie des gens qui sont morts.
Mmh. C'est juste déplacer des pertes du secteur privé vers le secteur public. Hein.
Oui, mais à ce moment-là, c'est pas comme si on n'avait que des gains dans le secteur public.
Avec oui. c'est clair.
Avec les déficits budgétaires qu'on a, dont j'ai parlé ce matin avec Emmanuel, il me semble que ce genre de... d'activité va s'arrêter assez vite parce que ça veut dire que votre niveau de vie baisse.
Oui.
C'est-à-dire que les gens, à la place d'acheter le machin chinois qui vaudra 50, ils vont acheter le machin français qui vaut 200, donc ils n'auront pas 150 à mettre ailleurs. Quoi. Mm-hmm. Donc c'est grotesque. C'est-à-dire ouais. ce genre de réaction est tout simplement grotesque.
Ouais. Et alors on va voir un peu la responsabilité de l'État français et aussi au niveau européen, c'est-à-dire un peu le niveau macro finalement, reprendre depuis le serpent monétaire européen ce genre de choses. Et là je parle un petit peu plus au niveau micro, c'est-à-dire que encore une fois depuis tout à l'heure je parle de SEB parce que SEB c'est une entreprise comparable à Brandt, alors
Brandt faisait du gros électroménager, ouais. Eux ils faisaient plutôt des cafetières à vapeur,
voilà,
des
petits trucs,
tout petit, des petits trucs.
Mm-hmm, effectivement. Et ils ont réussi à se positionner plutôt en marché haut de gamme. Et ça marche super bien, en fait. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est aussi là-dessus qu'on doit réfléchir à notre positionnement de marché. C'est-à-dire que si on veut faire du bas de gamme ou du milieu de gamme, on va jamais, mais absolument jamais réussir à tenir la concurrence avec les Chinois. C'est juste impossible.
Ben, il faut faire des produits, soit qui font pas, et soit dans lesquels on a un tel acquis culturel qu'on fait beaucoup mieux qu'eux. Ouais. Bon, ben c'est. Tu vois, j'ai vu que par exemple, l'espèce de petite Citroën cubique là, qui se balade partout, là, vous savez, qui ressemble à une boîte de bière, une série oui. de boîtes de bière. Là, ben, elle commence à être exportée massivement, je crois, aux États-Unis ou je sais pas où.
Ouais.
Parce qu'elle fait rigoler les gens. Ben, ça, c'est un produit que les Chinois n'ont pas fait, quoi. C'est malin.
Ouais. Ouais,
donc,
c'est ça, faut se positionner sur d'autres trucs. Faut être
malin. Faut être malin et puis. Raisonner, c'est-à-dire, je sais pas, mais cette histoire de quel est l'avantage comparatif de Brandt dans le paysage industriel mondial, la réponse est
Strictement aucun, strictement aucun. À chaque fois, j'ai l'impression que c'est un produit encore plus bas de gamme que ce que proposent les Chinois et qu'encore un peu plus cher. Donc là, vraiment, je comprends pas, quoi. Et en plus de ça, le côté, à la limite, on peut entendre le côté, et certains consommateurs sont prêts à payer plus cher juste pour acheter français, par exemple.
Voilà, ça
Sauf
c'est.
que c'est beaucoup moins le cas dans les produits bas de gamme ou milieu de gamme.
Et puis vous savez, si vous êtes dans une cuisine Brandt ou une Siemens, ou je ne sais pas comment vous appelez le chinois, là,
Oui.
ça va pas. Les foules ne le sauront pas, quoi. Vous voyez ce que je
Oui,
veux
c'est
dire?
ça.
Si vous vous baladez avec une voiture française plutôt
Ouais.
qu'une voiture, je sais pas, allemande, bon, vous pouvez dire, moi je suis un bon français, monsieur, j'achète Peugeot, mais
Oui.
ça se voit d'ailleurs. Mais. Non, j'ai pas le. Tiens, aujourd'hui, j'ai vu pour la première fois une grosse BYD qui était garée dans le bureau, là.
Ah oui, il y en a de plus en plus à Paris,
Une
ouais.
grosse BYD, on dirait une Porsche Cayenne, là. Sauf que l'eau, 20% des prix de la Porsche Cayenne, mais
Ouais.
sans ça, on le regarde, on se dit, il n'y a pas vraiment de différence. Hein.
Oui.
À mon avis, Porsche me ferait du souci. Hein.
Oui, bah c'est ce genre de marque a beaucoup de mal à aujourd'hui à faire des
Parce
gros
qu'ils étaient
chiffres
les
hein, sur
seuls
le
à faire
marché.
ça, mais maintenant, ils sont plus.
Oui, bah les ventes de Jaguar, de Porsche, tout ça, ça s'est effondré hein, dernièrement. C'est très compliqué pour eux. Et donc voilà, Seb, c'est 6 000 emplois industriels en France avec des usines en Côte d'Or, dans l'Eure, en Haute-Savoie, en Isère, dans les Hautes-Pyrénées, dans la Manche. Enfin bref. C'est vraiment une success story française. Alors,
Et
elle
qui
a
est beaucoup
aussi.
fondée sur un homme, je crois qu'il s'appelait Latour d'Arthez, je crois, le patron, pendant très longtemps, je ne sais pas si c'est toujours le patron, et c'est un type qui a justement pris les décisions et tout. Et c'est pour ça que je reçois plein de trucs dans lesquels j'ai dit, vous savez, vous avez besoin d'un entrepreneur, parce que et les gens me disent, non, non, s'il n'y a pas de travail, si les travailleurs ne vont pas travailler pour lui, il n'y aura pas de création de valeur. Alors je dis, attention les gars, pour gagner le Tour de France, il faut un vélo. C'est une condition nécessaire.
Oui.
Mais c'est pas suffisant.
Oui.
Pour avoir gagné de l'argent, il faut un vélo. Pour faire le tour de France, il faut avoir un vélo et être très bon. Et donc un entrepreneur, il a un vélo. Il y en a certains qui sont bons, d'autres qui sont pas bons. Dans le cas de Brand, ils étaient pas bons. Et on a
Ouais.
vu que ça n'a rien créé du tout,
Ouais.
qu'il disparaît.
Absolument.
Donc la plupart des gens sont incapables de faire la différence entre une condition nécessaire et une condition nécessaire et suffisante.
Oui, absolument.
C'est pas la même chose. Donc oui, on a besoin d'un entrepreneur. Ce qui a fait la différence entre Brandt et Latour d'Arthez et Seb, c'est l'entrepreneur Latour d'Arthez.
Ouais, tout à fait. Là, il y a vraiment une vision stratégique que je salue. Voilà. Il y a une autre entreprise aussi, alors qui fait pas tout à fait la même chose et qui est vraiment sur du très haut de gamme que j'aime bien, c'est Le Creuset. Alors Le Creuset, c'est plus de la fonte, en fait, c'est même carrément ça. Et depuis 2011, même un petit peu plus, Le Creuset est leader mondial des articles culinaires en fonte émaillée avec plus de 70% des parts de marché. Si vous avez déjà regardé des Instagrammeuses qui font de la cuisine ou je ne sais quoi, vous avez certainement déjà vu leur plat en fonte.
D'abord, ça pèse une tonne. Si vous
Ouais.
le faites tomber sur le pied, ça vous massacre. Et
Ouais.
c'est quand même une idée qu'il fallait être absolument géniale. C'était comment je vais transformer de la fonte, qui est quand même une belle saloperie,
Ouais.
en article de luxe.
Oui.
Ça, le type qui a fait ça, il faut lui
Ouais.
tirer son
Et en
chapeau.
article joli, quoi, parce que c'est
Joli,
beau à
il est bien
regarder.
émaillé, c'est beau.
Voilà,
Et puis ça
absolument.
pèse une tonne. Et le fait que ça pèse une tonne rassure les gens, parce que ça veut dire que ça va cuire à l'ancienne.
Ouais.
C'est pas juste la chaleur, c'est qu'il y a une chaleur qui reste dans le
Ouais,
truc, là
tout à
reste la
fait.
fonte reste chaude, donc je sais pas. Donc je sais pas, vous imaginez toujours un bœuf mironton, je sais pas, dans la fonte, là, c'est des trucs qui vont cuire longtemps, ça doit être
Ouais,
bon.
absolument. Et c'est les gens, ils s'imaginent faire de la bonne vieille cuisine à l'ancienne.
Voilà,
Ouais, c'est
avec
vraiment le
des
truc de.
oignons et tout, ça doit
Voilà,
être bien ça.
c'est typiquement le genre de truc qu'on offre pour un mariage, quoi, en disant bon,
Voilà.
on va bientôt y avoir des marmots à nourrir, donc faut des beaux plats, quoi. Et alors cette entreprise, Le Creuset, 93% de son chiffre d'affaires, c'est de l'exportation. Chiffre
Ils ont
d'affaires
réussi
est.
ce coup incroyable de faire un truc dans un machin qui n'est pas technologique, la fonte émaillée,
Ouais.
bon, ça se fait, et d'en faire un produit sur lequel on a attaché l'étiquette Luxe France.
Ouais.
C'est-à-dire,
Voilà. Et tout le monde en achète dans le monde entier.
tout le monde
Les
entier se
Américains
dit
en
ça,
reçoivent.
les Français font de la cuisine avec ça doit être bien.
Oui, absolument, c'est exactement ça.
Tout le monde a dans la tête que la cuisine française est bonne, donc ils se disent tous c'est à cause de ce truc-là, donc je vais en faire, et puis bon.
Voilà, exactement. Et donc, bah, ch le chiffre d'affaires de la marque, c'est 90 millions d'euros aujourd'hui, avec un résultat net de 17 millions, ce qui est vraiment beaucoup. Et ces deux chiffres sont plutôt stables sur les 5 dernières années, à l'inverse de Brandt, qui n'a pas réussi à faire un bénéfice en au moins moins 5 ans. J'ai regardé les chiffres depuis 2020. Je crois que j'ai pas pu voir avant 2019 et j'ai pas vu une seule année en excédent, quoi. Donc,
et en plus, je crois que l'actionnariat était devenu algérien.
Oui, effectivement, ça faisait partie du groupe Cévital, groupe algérien, depuis 2014. Donc ouais,
donc
la direction
plus,
était pas terrible, quoi. Après,
en plus,
c'est pas parce qu'ils étaient algériens.
Chose contre les Algériens, c'est pas ce qu'on dit, mais simplement, si vous voulez, c'était un groupe non français qu'ils détenaient. Bah, ils auraient pu essayer de. Enfin, ils ont pris un produit et finalement, ils l'ont conduit à sa perte, quoi.
Voilà,
ils ont jamais réussi à le redresser, quoi.
Voilà. Donc là, je parlais un petit peu de la responsabilité de la direction, parce que là, pour moi, il y a une faute stratégique. Après, il y a aussi, il faut dire que c'est pas évident de faire de l'industrie en France. C'est plus dur qu'ailleurs. En cela, les entrepreneurs qui réussissent d'autant plus dans le domaine industriel en France, je pense qu'ils peuvent réussir dans absolument n'importe quel pays du monde. C'est les meilleurs du monde. Ils sont intouchables, ils sont imprenables. Parce que, eh bien, c'est ce que vous expliquez dans réussir sa désindustrialisation. Nous avons des hauts fonctionnaires, que ce soit au niveau français, au niveau européen, qui ont tout fait pour que ce soit difficile, notamment à partir des années 80.
Alors j'ai écrit ce papier à réussir sa désindustrialisation. Pourquoi ? Parce que normalement, ce qui intéresse les gens, c'est comment on a réussi son industrialisation. Mmh. Par exemple, je sais pas, Singapour a réussi son industrialisation, mais il y avait des gens qui avaient travaillé très dur pour faire les BD, etc. Donc ils ont réussi. Et là, on se rend compte que j'ai fait ça désindustrialisant volontairement parce qu'on se rend compte qu'il y a des gens qui travaillent très dur depuis 25 ans pour foutre en l'air l'industrie française. Mmh. Alors, il n'y a que deux possibilités. Ou bien, ils sont totalement incompétents, ce qui n'est pas complètement impossible. Hein.
Oui.
Et avec des fausses idées dans la tête. Non seulement incompétents, mais avec une fausse façon de voir la vie.
Oui.
Ou bien alors, ils sont payés par l'étranger, mais sinon, je n'arrive pas à comprendre. Il y avait des gens qui voulaient désosser la France, en quelque sorte, pour que la France cesse de ce que Bismarck appelait d'être cette orgueilleuse nation. Mmh. C'est-à-dire d'être libre, indépendante, et de pouvoir dire aux gens, je vous emmerde. Quoi.
Ouais.
Donc, vous lisez ce papier, vous vous rendez compte que politique monétaire, politique budgétaire, taux de change, tout ça a toujours été fait pour foutre en l'air les affaires industrielles européennes.
Oui.
C'est-à-dire que l'administration disait aux gars, moi je vais être payé en Deutsche Mark, je vais permettre à tout le monde d'être payé en Deutsche Mark, mais le taux de change, le taux de profitabilité sera la moitié de ce qu'elle est en Allemagne. Bon, ben, si vous mettez les frais sur les entreprises françaises, les contraintes, etc., deux fois ce qu'elles sont en Allemagne, faut pas vous étonner si les usines prennent leur jambe à leur cou et vont s'installer en Allemagne, quoi. Non, ça me paraît. Et vous voyez ça dans tous les domaines. C'est-à-dire que toujours, il y a cette espèce de truc. Moi, à l'inspection des finances, je vous dis que les industriels n'ont qu'à s'adapter.
Ouais.
Mais ils s'adaptent, mon grand. Mais ils partent.
Oui, absolument. Et alors, la première comparaison que vous faites dans ce papier, c'est page 5, vous comparez la France et la Suède, deux pays qui devraient être comparables, normalement, puisque c'est en Europe, voilà.
On est tous les deux dans l'euro. On n'était pas dans l'euro, mais enfin, on est tous les deux dans l'Europe.
Voilà.
Ils sont très sociodémocrates. C'est un pays où les gens meurent pas de faim dans la rue, vous savez, où il n'y a pas de...
Genre, c'est pas comparé, la France et la Chine, par exemple, on a une croissance industrielle complètement folle. Voilà,
et le coût du travail... Ce sont pas des nécessiteux, les Suédois. C'est pas le Portugal, quoi.
Voilà, exactement. Et donc, vous comparez notamment les marges brutes d'autofinancement, donc en France et en Suède, donc à partir des années 90, en gros. Et on voit que en Suède, cette marge brute d'autofinancement, bah, elle ne fait qu'augmenter ces dernières décennies, globalement, sur une longue tendance. Et puis, en France, elle ne fait que baisser. On était à 25 au début des années 90 et on est à 21 aujourd'hui. Alors que c'est quasiment l'inverse, en fait, en Suède.
Oui, la marge brute d'autofinancement, vous savez, c'est un truc que toute cuisinière comprendra. C'est que vous dépensez tout, puis il vous reste dans le fond, dans la caisse, quand vous avez dépensé pour tout, ben le profit,
oui,
et l'amortissement sur les trucs que vous avez achetés, que vous amortissez, vous voyez. Donc c'est le tas d'or de Picsou, vous savez, celui qui vous reste une fois que vous avez tout dépensé là. Et donc c'est sur ce tas d'or que les entrepreneurs ont une responsabilité de 100%, parce que c'est ça qu'ils peuvent investir, ou distribuer, ou pour faire augmenter les dividendes, ou les salaires, ou j'en sais rien, mais... Et vous voyez donc que la rentabilité des entreprises françaises n'a cessé de baisser depuis, encore je vous montre pas, depuis 1950. c'est la chute libre. Et là, en Suède, ça n'a cessé de monter. Donc, la quasi, vous parlez la même chose en Suisse. Le but de la plupart des dirigeants dans le monde, c'est que les entreprises chez elles aient une marge suffisante pour survivre.
Oui.
Les nôtres, nos hommes, ils disent non, non, si vous gagnez de l'argent, c'est que vous l'avez volé aux travailleurs. C'est donc, en cas de crise, c'est sur les entreprises qu'on tape pour transférer de l'argent aux travailleurs, puisque c'est bien fait pour elles.
Ouais.
Donc, si vous voulez, il y a quand même, dans nos pays, une espèce de considération du profit qui fait que si quelqu'un fait un profit, il faut le mettre en prison, quoi.
Ouais. C'est vrai que ça, c'est un petit peu ce qu'on retient du. En fait, c'est un peu le péché originel du mitterrandisme. C'est-à-dire, c'est vraiment l'idée, si vous avez fait du profit, c'est que vous l'avez forcément volé à quelqu'un.
Donc, ça,
vous
avez vite
fait. Voilà, vous avez vite fait le
marxisme dans son truc. C'est-à-dire, encore une fois, vous avez le capital et le travail. Donc, si le capital a sa part qui monte, ça veut dire que le travail a sa part qui baisse. Et ça, c'est insupportable. Donc, on va vous taper. Et on l'a fait beaucoup, on l'a fait tellement bien qu'il ne va plus rester aucun travail, aucun.
Voilà. Et donc, si on fait un indice de la production industrielle en base 100 en 1989, c'est ce qu'on voit page suivante, page 6, on voit que la France et la Suède étaient au même niveau au moment où.
Et surtout qu'elles étaient montées de la même façon de 70 à 80, 90, jusqu'au moment de l'arrivée de l'euro, là.
Tout à fait.
Et c'était pareil, c'était pareil. Et puis, nous, on va rentrer dans l'euro, la Suède ne rentre pas dans l'euro, il y a un référendum qui est respecté pour une fois, et ils n'y vont pas. Et l'indice de la Suède passe de 100 à aujourd'hui 166, et nous on passe de 100, on est resté à 100.
Voilà.
Donc vous vous dites, ben oui, la marge brute d'autofinancement, ça se transforme. C'est ce que disait Schmitt, qui a été un bon premier ministre allemand. Il disait, les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain et l'emploi d'après-demain.
Ouais.
C'est exactement là. C'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit très clairement.
Et là, on a des différences, comment dire, par rapport au code du travail. On a des différences par rapport à la monnaie, ce qui est fondamental. Parce que sinon,
par
vous
rapport
dites,
à la liberté, oui.
Par rapport à la liberté. Parce que sinon, vous dites, la Suède et la France opèrent dans le même monde, concurrence de la Chine, globalisation, réglementation européenne, contraintes énergétiques, problème d'immigration, etc. C'est vrai qu'on vit à peu près dans le même monde. Mais
c'est-à-dire que quand il y a un choc, les Suédois ont décidé, quasiment depuis les années 20, il y avait eu des. Ils ont décidé, quand il y a un choc extérieur auquel personne ne comprend rien, ce qu'on fait, c'est qu'on laisse filer la monnaie. Comme ça, on protège les marges des entreprises et puis on discute. Tandis que nous, on a décidé qu'il y a un choc, on bloque la monnaie, parce que, n'est-ce pas, c'est une question de virilité, et qu'on va prendre, on va laisser l'entreprise prendre la gamelle. Mais c'est pas du tout, le résultat final n'est pas du tout le même.
Et alors, vous dites, il y a cinq grandes étapes dans la construction européenne et la destruction industrielle, finalement, les deux coopérants. Le premier désastre, vous dites, c'est les socialistes qui sont élus, avec monsieur Mitterrand.
Mitterrand, qui nationalise les banques et qui nationalise la moitié de l'industrie. Hein.
Voilà. Le deuxième désastre, c'est Trichet, qui devient gouverneur de la Banque de France, avec la politique du franc fort.
Quel crétin, celui-là.
Le troisième désastre, c'est la création de l'euro. Donc là, on est en 2002.
Qui bloque l'échange à un niveau où on peut plus s'adapter, quoi.
Le quatrième désastre, c'est Draghi qui met les taux à zéro.
Oui, qui ruine tout le monde, ça, on l'a souvent montré.
Et le cinquième et dernier, c'est la gestion du Covid.
Et c'est, oui, la gestion du Covid, et j'allais dire presque aussi maintenant la gestion de la crise ukraino-russe. Parce que si la France avait été un État indépendant sous De Gaulle, ou j'en sais rien, on aurait navigué cette crise avec peut-être un peu plus d'intelligence que ce qu'a fait Madame von der Leyen. Et là, donc maintenant, il y en a un sixième, c'est le prix de l'énergie chez nous.
Parce que, par exemple, en Suède, ce prix de l'énergie, il est problématique ou pas?
D'abord, ils ont deux choses. D'abord, ils ont la Norvège tout à côté, qui leur vend du gaz. Bon, ça, ils n'ont pas le problème. Ensuite, ils ont des centrales nucléaires qui marchent très bien.
Ouais.
Et ce qui fait qu'ils ont un coût de l'énergie qui est relativement bas.
Ouais, et puis ils ont aussi des systèmes, eux, c'est particulier, ils ont beaucoup d'hydroélectrique aussi.
Ils ont beaucoup d'hydroélectrique et ils ont beaucoup aussi de. Vous savez, ils font des trous dans le sol et puis ils vont chercher la chaleur en dessous pour chauffer les maisons,
oui,
etc.
Ça, c'est, oui, c'est. Oui, c'est
tellurique, je sais pas quoi.
Oui. Et
ce qui est très étonnant, c'est que vous voyez qu'il y a 10-15 ans, il s'est passé des choses depuis, mais sur les 10 plus grandes fortunes du monde, 4 étaient en Suède. C'est-à-dire qu'ils ont cette très, très curieuse capacité, les Suédois. Vous mettez 10, vous prenez les Suédois, hein, oui, 10, ils sont pas très malins. Hein. Et puis vous les mettez à 10 dans une pièce, ils vont tout de suite se mettre à travailler, à savoir comment travailler avec les autres et tout. Ils sont très coopératifs, je crois que c'est parce que les hivers sont froids.
Oui, sans doute.
Et ceux qui faisaient pas ça,
ils crevaient tout seuls dans la forêt.
Ils crevaient tout seuls dans leur cabane. Donc ils ont cette espèce de qualité. Et donc ils font très bien la différence en Suède entre les types qui travaillent, qui vendent leur travail, donc c'est très bien, les salariés, qui sont bien payés, pour lesquels il y a des avantages, des retraites et tout, qui sont capitalisés maintenant. Et puis, le type qui prend des risques. Alors là, ils n'ont aucun problème que le type qui prenne des risques, je vous dis, Tetra Pak, Ikea, tout ça, c'était des gens qui étaient des Suédois.
Ouais.
Wallenberg, qui est une des grosses banques, et Electrolux, tout ça. Donc, si vous voulez, il y a cette acceptation par la Suède. La première des choses, c'est qu'ils font des gars qui aient des idées, qui prennent des risques, qui développent, et on va bien leur foutre la paix à ceux-là, quoi. Ils sont beaucoup, beaucoup plus... C'est pas parce que quelqu'un a gagné de l'argent qu'il est mal vu en Suède.
Oui, absolument. C'est la géothermie, je crois. Le
la géothermie, c'est ça.
Et donc, en 1981, nous avons eu les nationalisations, ce qui fait monter le poids de l'État dans l'économie, et l'instauration de l'impôt sur la fortune, ce qui fait baisser la rentabilité du capital investi et la propension à épargner. En 1992, alors ça c'est une histoire intéressante, on a Trichet donc, qui décide de suivre la politique dite du franc fort. Et donc là, vous dites, le pauvre homme n'a pas compris qu'une monnaie forte est le résultat d'une bonne politique, et non pas l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, il cherche le résultat avant de pouvoir créer le résultat. En
fait. Non, ce qu'il a dit, mais il s'est en train de justifier depuis toujours, c'est-à-dire, si je colle une monnaie forte, ça va forcer les entrepreneurs à faire des investissements pour améliorer la productivité et tout et tout. Les investisseurs, ils se sont dit, ouais, je vais faire des investissements nouveaux pour améliorer la priorité, mais je vais aller les faire en Tchécoslovaquie, parce
oui.
que... parce qu'il n'y a aucune raison. Donc, il a raisonné comme si l'entrepreneur français... devait, de par son patriotisme excessif, avoir des usines en France. Mais n'importe quel entrepreneur peut avoir ses usines où il le veut. C'est ça la beauté du capitalisme. Mmh. Et surtout, quand les Allemands ont mis les taux d'intérêt réels à 0, à 7, pardon, après la réunification d'Allemagne, il y a l'Angleterre, l'Italie, et la Suède, trois puissances industrielles considérables, qui sont toutes les trois sorties du SME, ce qui était le système monétaire européen. Et donc, on a réévalué, pour rester accroché à l'Allemagne, on était obligé de monter les taux d'intérêt à 10 ou à 12.
Oui.
Ce brave Trichet était au conseil du Crédit Lyonnais, je crois, qui a fait faillite. Et ce qui est amusant, c'est que les faillites du Crédit Lyonnais, imaginez-vous, c'est un grand malheur que quelques jours après, leurs archives ont brûlé à Paris. C'était quand même un grand malheur.
Oui, c'est terrible, oui. Terrible coïncidence.
C'est une coïncidence. Mais surtout, ils avaient, grâce à Dieu, ils avaient des doubles au Havre qui ont brûlé la semaine d'après.
Ah oui, c'est encore une terrible coïncidence.
Et quand même une coïncidence. Et ensuite, donc, si vous voulez, les affaires du Crédit Lyonnais, ça n'a jamais été bien net. Il y a quelque chose qui est arrivé à tapis. Donc... Bref, il s'est passé toutes ces histoires de nationalisation, de dénationalisation. Ça a permis à toute une série de gens importants du Parti Socialiste de gagner beaucoup d'argent, avec des inside information, l'affaire Triangle, etc. Et donc, c'est là où a commencé la grande corruption du service public français.
Alors, cette histoire de réunification de l'Allemagne, elle est intéressante parce qu'on pourrait croire que ça n'a strictement aucun rapport avec la désindustrialisation française. Mais vous expliquez que lorsque l'Union soviétique s'écroule, l'Allemagne se réunifie et le chancelier Kohl convertit l'Ostmark et le Deutschmark à 1 OM pour 1 DM, ce qui est puissamment inflationniste. Pour lutter contre cette inflation, ça c'est page 14, la Bundesbank fait grimper les taux courts à 8,75%, donc pour des taux réels à plus de 5%.
Qui nous force, nous, à les mettre à 10.
Voilà, c'est ça. Plus. Parce qu'en fait, il y a une prime de risque supérieure par rapport aux autres pays vis-à-vis de l'Allemagne.
C'est
voilà. Et donc, vous dites, c'est ce que vous venez de dire, en 92-93, il y a trois pays, l'Italie, la Grande-Bretagne et la Suède, qui décident de sortir du SME, ne voyant pas pourquoi ils devraient payer pour la réunification allemande. Et Monsieur Trichet, lui, il a décidé de payer pour la réunification allemande.
Sans qu'il ait été élu, jamais rien du tout.
Ouais.
C'est ça qui est extraordinaire, c'est que les politiques à l'époque, parce que, bon, l'indépendance de la Banque de France, mais enfin, vous alliez à la Banque de France que j'ai fait quelque temps dans les années 90, dans le hall de la Banque de France, il y avait l'euro, notre monnaie, etc. Donc, pour Trichet, son rôle dans l'histoire, c'est là sa marque, c'est qu'il allait créer l'euro et qu'il serait considéré comme un fondateur de l'Europe. Et en fait, il a été son fossoyeur, parce que le pauvre garçon est incompétent.
Ouais, et donc ça fait qu'on a eu des taux courts à 12,5%, alors que l'inflation elle était à 2,5%, ce qui forcément ne va pas faciliter les
L'investissement.
investissements en tout genre. Le coût du capital devient tellement cher.
Ben que la chose que vous pouvez faire si vous avez du fric, c'est racheter votre dette.
Ouais, c'est ça.
Donc vous rentrez dans, vous avez votre économie qui se vide, quoi.
C'est ça. Et donc derrière, vous comparez encore une fois les taux réels.
Oui.
Cette fois-ci, les taux réels français sur le franc français et les taux réels sur la couronne suédoise. Alors ça, c'est la page 15. Donc vous dites, la marge brute des entreprises françaises, ligne bleue, s'écroule avec la corrélation avec la ligne rouge. Le taux de change est phénoménal. Le chômage explose et avec lui, les déficits budgétaires.
Voilà. Et c'est le moment en 92 où la Suède saute et où elle commence à se réformer. Et quand, ce que je montre dans ce papier, c'est que de 92 à 2022, ce qui commence, fait 30 ans, la Suède, dans toutes les, n'a fait que prendre des mesures favorables aux entreprises. Et nous n'avons fait que prendre des mesures défavorables aux entreprises.
Oui, absolument. Et alors, je rajoute quelques graphiques à moi. Alors, c'est pas moi qui les ai faits, mais je les ai trouvés à droite à gauche. C'est d'abord le niveau de corporate tax levels, c'est-à-dire
Oui.
les niveaux de taxes sur les entreprises. Et on voit que dans tous les pays de l'OCDE, la France est tout en haut, juste devant la Colombie, devant l'Allemagne aussi, qui est quand même assez élevée à 30%. Mais nous, on est à 36,1,
Et on
donc
va monter.
on est les champions. Et on va monter, bien sûr. Bah, on va
Je
quand
crois
même
qu'on va
pas.
le monter là.
On va quand même pas descendre, ce serait complètement dingue. Et il y a un phénomène que je pense que tout salarié et tout patron comprend très bien, c'est le fait que le coût du travail augmente alors que ce n'est pas perçu comme tel par le salarié. C'est-à-dire qu'il a l'impression que son salaire, lui, n'augmente pas, alors que du point de vue du patron, le coût du travail augmente.
Et même je lui fous plein de trucs comme la sécu, tout ça à payer.
Voilà, absolument.
Et la sécu des autres, la sécu des troisièmes, la sécu des quatrièmes. Et donc lui, par exemple, encore une fois, les gens qu'on embauche, si vous êtes un patron, vous payez 200 et vous avez du pot si le salarié en touche 90, quoi.
C'est ça, et
C'est pour
pour
ça que vous nous coûtez tellement cher.
voilà, c'est exactement ça.
Pauvre, pauvre garçon.
Et quand vous avez un petit peu plus que le SMIC, pour vous augmenter de 100 € de salaire disponible, c'est-à-dire après impôts et tout ça, il faut que l'employeur dépense près de 500 € globalement,
Donc vous
surtout
arrivez
pour
dans ce que
un
Milton
célibataire.
Friedman appelait un coin, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas augmenter les gens qui ont des salaires bas, parce qu'on a filé tellement d'avantages aux fiscaux, etc., aux salaires bas, que si vous faites monter quelqu'un en fonction du mérite, ben il va se retrouver touchant moins que celui qui n'a pas été augmenté. Donc c'est quand même un peu couillon parce qu'il passe dans des. Et donc, vous créez un sous-prolétariat qui
Ouais.
reste pour toujours coincé au SMIC.
Tout à fait.
Et moi, ce qui m'a fait rigoler, c'est récemment, il y a eu un référendum en Suisse, je crois, justement, comme toujours. Il y a que là qu'il y en a, d'ailleurs. Et les Suisses ont décidé que non, ils voulaient pas mettre de SMIC à 4 000, je crois, non, 4 000 francs suisses, quoi. C'était complètement idiot. Ils voulaient pas une cinquième semaine de congé payé, ils voulaient qu'on foute bien la paix au patron. Parce que dans le fond, chaque Suisse a une relation intime avec son entreprise et comprend comment elle marche, quoi. Et que c'est pas en prenant l'argent de son patron qu'il va devenir riche, quoi.
Ouais. Et ça valorise beaucoup plus d'ailleurs le salarié dans la relation de travail et de contrat. C'est-à-dire
Oui.
que en fait, finalement, on a presque l'impression que le contrat de travail entre un salarié et un patron, c'est en fait un contrat de travail entre un patron et l'État, finalement.
En
Et
France,
que
oui.
voilà, l'État français. Et
Mais d'ailleurs,
que
l'État français se sent comme un arbitre anglais quand il arbitre un match de rugby entre la Russie et la France. Je vais apprendre à ces Français à pas tricher, quoi. Vous voyez, c'est toujours l'impression qu'on a. Donc, vous dites, ah oui, c'est en effet, l'État se considère comme le défenseur du salarié démuni.
Et alors j'ai lu une étude de la DRES qui date de fin 2024 qui tentait d'estimer justement combien ça coûtait un employeur d'augmenter son salarié, donc ça revient aux chiffres que j'ai donné tout à l'heure. Et à un moment donné, ils disent quelque chose de très intéressant. Ils disent entre 1,1 et 1,45 SMIC, le revenu disponible augmente en moyenne de 46 centimes pour chaque euro supplémentaire d'activité. Ce moindre gain au travail par rapport à la situation précédente s'explique par l'entrée dans la première tranche de l'impôt sur revenu. À partir de 1,1 SMIC, une personne seule devient imposable, exprimée par rapport au salaire net. L'impôt diminue le revenu disponible de 15 centimes. Et cette tranche-là, en fait, c'est celle qui concerne le plus de gens, entre 1,1 et 1,45 SMIC. Donc c'est ce que vous disiez, c'est les gens sont totalement piégés dans ce truc-là,
Piégés.
et c'est extrêmement difficile d'en sortir.
Ils sont piégés et ils sont piégés à deux niveaux. Ils sont piégés d'abord au niveau monétaire et ensuite ils sont piégés parce que s'ils font des efforts vaillants pour être promus ou j'en sais rien, ou parce qu'ils aiment leur boulot, parce qu'ils veulent que les choses s'améliorent, ce qui est encore mieux, eh bien, on ne peut pas les récompenser. On peut pas, si vous voulez, vous pouvez pas leur dire, écoute, t'as vraiment bien bossé. On va te filmer une augmentation de 50%, je sais pas quoi, parce qu'il lui restera rien, quoi. Donc, c'est une façon, encore une fois, de prévenir toute individualisation de chaque travailleur par par les gens avec lesquels il travaille, quoi. Vous devez, dans le fond, être un veau qui reste comme ça pas cher, quoi.
Et en quoi l'euro, qui est une monnaie assez forte par rapport au franc français, est en problème dans ce cas-là?
Ben, c'est pas difficile, si vous voulez, c'est que vous avez deux classes qui travaillent, mettons, en France. Allez, on va dire ceux qui prennent pas de risques, les fonctionnaires, et ceux qui prennent des risques, ceux qui travaillent dans les entreprises. Alors, je vais schématiser. Si la monnaie est très chère, ben, les entreprises vont pas être concurrentielles, parce que la monnaie est trop chère, le taux de change est trop cher. Bon. Ben à ce moment-là, la variable d'ajustement, c'est les profits des entreprises qui vont baisser. Mais si la monnaie flotte et que ça baisse comme ça, la couronne suédoise a baissé par rapport à l'euro depuis 12 ans, ben les fonctionnaires, ils sont payés en couronne suédoise, donc eux, ben, ils sont toujours payés pareil, mais ils n'ont pas un gain. Mais par contre, les entreprises, elles ont leur marge qui est protégée par la baisse du taux de change. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est de vous dire, ben, une monnaie forte et qui n'est pas gagnée, qui est empruntée, ça favorise les
Les
fonctionnaires à
fonctionnaires.
l'inspection des finances qui sont payés en euros. Et puis, ça défavorise les entreprises. Et puis, si la monnaie se met à flotter, ben, c'est-à-dire que si un jour on sort de cette saloperie d'euros, ce que je souhaite de tout cœur, à ce moment-là, vous allez avoir une richesse massive en France. Des gains payés dans la fonction publique, qui seront payés en monnaie de singe, vers les gars qui prennent des risques, les entrepreneurs qui exportent. Et alors, quand je dis pas des fonctionnaires, je voudrais dire quelque chose d'assez rapide. Ici, les gens me disent, mais les fonctionnaires, il y en a beaucoup qui travaillent. Moi, je suis d'une famille de fonctionnaires, moi, dans l'armée, etc. Bon. Il y a deux sortes de fonctionnaires. Il y a ceux qui font leur boulot et qui le font bien, j'en doute pas. Et puis, vous avez 70 000 fonctionnaires en France aujourd'hui, hauts fonctionnaires, qui gagne plus que ce que gagne un député ou un sénateur. 70 000.
Oui, c'est complètement
C'est ceux-là, mes ennemis.
C'est complètement dingue.
C'est ceux-là, c'est ces 70 000-là, si vous voulez, dont vous remarquerez qu'on ne parle jamais. Jamais on parle.
On peut remplir un stade et pas n'importe lequel. On
Pas n'importe quasiment. Donc, de gens qui sont payés plus de 100 000 euros par an en ne prenant aucun risque. Mais c'est ceux-là, l'ennemi, parce que c'est ceux-là qui empêchent toutes les réformes, c'est ceux-là qui bloquent tout, parce qu'ils savent très bien, ils sont là bien à l'abri. Et on les voit pas. Donc c'est à ce contre-là que doit se concentrer. Quand les gens me disent il faut réduire le nombre des députés de moitié, je leur dis mais vous allez passer de 650 à 300. Mais ce qu'il faut, c'est passer de 70 000 à zéro. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de raison qu'il y ait 70 000 mecs qui touchent entre 100, 200, 300
Ils
000
sont
euros
mieux
par
payés
an.
Que des députés,
Beaucoup plus que les députés et les sénateurs. Mais personne ne devrait être plus payé que les députés et les sénateurs. Donc c'est cela les ennemis, c'est pas l'employé de la poste à Draguignan qui m'intéresse. Hein. Donc vraiment c'est cela là, c'est la classe haïssable.
Et alors, si on avait mis Charles Gave, ministre des Finances, admettons pas aujourd'hui, parce que la tâche est quand même un peu complexe, il faudrait défaire tout ce qui a été fait, mais admettons dans les années 90, en 1992, vous regardez ce que la Suède fait, vous dites, tiens, c'est pas idiot.
Ce que j'aurais fait, ces référendums, par exemple,
ouais.
En disant, est-ce que vous voulez la fin de l'euro? Est-ce que vous voulez la fin du franc français? Vous demandez ça aux Français, ils disent, mais ça va pas, ça dure depuis les Gaulois, le franc français, si j'ose dire carrément, enfin, depuis au moins les francs. Ils ont regardé leur monnaie. En gardant leur monnaie, ils ont regardé la possibilité de s'opposer à la Banque Centrale. Une banque, je sais pas s'il y en aurait une, même. Donc, si vous voulez, les grands rois de France, si j'ose dire, ont toujours gouverné en s'appuyant sur le peuple contre les féodalités, si vous voulez. Ça a toujours été les... Et donc, j'aurais dit, vous avez cette féodalité des 70 000 salopios là-haut, qui vont essayer de tout piquer sans que vous le voyez. Donc, je vais gouverner contre eux pour vous.
Oui.
Et j'aurais maintenu le taux de change flottant. J'aurais dit, il est hors de question que on suive les ordres économiques ou financiers ou monétaires ou juridiques de l'Europe. Donc j'aurais dit, l'Europe doit rester, ce qu'elle n'aurait jamais cessé d'être, une zone de libre-échange avec des règles que tout le monde accepte, mais qui ne sont imposées par personne. Par exemple, le Mercosur aujourd'hui, c'est un vrai scandale. Quand même. Parce que les paysans ont dit qu'ils n'en voulaient pas, les Français ont dit qu'ils n'en voulaient pas, et paf, on l'a quand même.
Oui. Et d'ailleurs, même l'État français est plutôt
Il est en
contre.
Train de faire du bruit en disant non, on ne va pas le faire. Mais voilà. Tu l'as accepté, Cornio.
Oui.
Ne dis pas que tu ne vas pas le faire, tu l'as accepté.
Oui.
Donc il ment.
Oui, oui, à chaque fois, c'est toujours beaucoup de gesticulation en France
pour
le public français.
C'est toujours la même chose de vous dire non, ça ne va pas avoir lieu.
Oui.
La deuxième étape, c'est ça va avoir lieu, mais ça n'aura aucune conséquence. Et la troisième étape, si ça a des conséquences, mais on n'y est pour rien, on ne peut plus rien faire.
Oui.
C'est toujours l'étape en trois, bim, bim, bim.
Oui, absolument. Ouais. Et ce qui s'est passé en 2012 aussi, c'est très intéressant avec Mario Draghi. Donc à ce moment-là,
il a violé les traités.
Oui, alors il a complètement violé les traités. On se retrouve avec une Italie qui paye beaucoup trop cher ses taux d'intérêt par rapport à l'Allemagne.
L'euro aurait dû disparaître à ce moment-là.
Et ce qui se passe à la place de faire disparaître l'euro, ce qui aurait dû être le cas, Mario Draghi met des taux négatifs. Et alors ça, c'est complètement.
Les taux négatifs, ça m'a toujours
c'est très original. Bien.
D'abord, vous pouvez regarder, il y a une histoire des taux d'intérêt, imaginez-vous, qui a été écrite par un Américain il y a 50 ans, qui était professeur à l'université de Rochester, je crois, qui s'appelait Homer. Non, il n'avait pas écrit l'Iliade ou l'Odyssée, celui-là, il avait écrit l'histoire des taux d'intérêt. Et j'ai été regarder, parce que ça traîne dans ma bibliothèque, il n'y a jamais eu, en 5000 ans d'histoire des taux d'intérêt négatifs. Pourquoi ? Parce que le taux d'intérêt, c'est ce qui vous compense, l'épargnant, contre l'incertitude du futur. Oui. Donc, on vous donne un peu plus, parce que comme ça, vous consommez moins aujourd'hui, comme ça, vous pourrez consommer plus dans le futur. Bref. Si vous mettez des taux d'intérêt négatifs, ça veut dire philosophiquement que le futur est plus certain que le présent. Ce qui est complètement imbécile. Le futur ne peut plus être certain que le présent. Donc, on a gouverné l'Europe en fonction d'une hérésie intellectuelle, d'un illogisme total, et on se rend compte aujourd'hui, par exemple en Allemagne, que du coup les obligations allemandes qui étaient la base de tout le système de pension allemand, maintenant elles ne gagnent pas un rond depuis 10 ans, et les pensionnaires allemands ils se retrouvent avec un niveau de vie qui va se ratatiner. Donc, ce que j'essaie d'expliquer aux gens, c'est si vous faites un crime économique, parfois on n'en voit pas les effets avant 10-15 ans.
Oui.
Mais donc, on a fait toute une série de trucs qui n'étaient pas vrais. Maintenir un taux de change fixe dans des pays qui ont des productivités différentes, c'est impossible. Parce que toute l'industrie va dans le... Ce que j'avais dit, l'euro, ça va amener à trop de maisons en Espagne, trop d'usines en Allemagne et trop de fonctionnaires en France. Quoi. Donc, on l'a eu comme ça. Mais... Donc, il y a ce que Bastiat a appelé... Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, vous baissez les taux d'intérêt, tout le monde est content parce qu'ils ont de l'argent moins cher, ils vont pouvoir emprunter plus.
Ouais.
Ça, c'est ce qu'on voit, tout le monde est content. Mais ensuite, ce qu'on ne voit pas, c'est les banques qui sautent en Espagne, en Irlande, partout.
Oui, parce que c'est sûr, pour toutes les banques commerciales qui ont des obligations, elles perdent de l'argent, elles sont certaines même de perdre de l'argent. Ouais. Et du coup, pourquoi acheter des obligations si on est certain qu'on va perdre de l'argent?
Ben voilà.
Ça n'a pas de logique d'un point de vue marché.
Il y a aussi autre chose, si vous mettez d'intérêt à zéro, mettons que la Société Générale et un coût de fonctionnement fixe de 3% de ses dépôts. Allez, vous savez, parce que il faut payer les buildings, payer les salaires, 3%. Donc, si vous êtes à zéro, vous allez prêter à 1 ou 1,5. C'est-à-dire que sur chaque prêt, vous allez plus couvrir vos prêts fixes. Donc, à ce moment-là, c'est la variable d'ajustement, ça devient les profits des banques, dont les actions se pètent la gueule de 80% jusqu'en de 92 à peu près à 2020, allez, donc 2017. Et à ce moment-là, qu'est-ce que décide la Banque centrale? Vous allez le trouver, non? Puisque les banques perdent de l'argent et qu'elles vont sauter.
Bah, il faut faire du quantitative easing. Il faut
les subventionner. Mmh. Donc, qu'est-ce que fait la Banque centrale? Elle prête de l'argent à moins 3 à la Société Générale pour acheter les obligations à plus 1 de la France, ce qui lui permet de faire les cartes, qui permettent de couvrir ses coûts. Mais c'est à ce moment-là, la perte passe de la Société Générale à la Banque centrale. Et puis ensuite, ça veut dire qu'à ce moment-là, ça passe de la Banque centrale au gouvernement, parce que cette subvention est payée par le gouvernement, et que ça nous amène à la faillite de l'État à la fin.
Ouais.
Donc vous voyez ce que je veux dire, c'est que vous envoyez le bobet de la faillite, chacun se le passe à toi, puis à la fin ça arrive à l'État qui dit à qui je le passe.
Exactement, c'est le dernier receveur, l'État.
Voilà, vous savez, comme moi je joue au rugby, s'il y avait un type très gros qui arrivait très vite, très bien moi, avec je bavais un ballon, je le filais vite au gars d'à côté pour que ce soit lui qui le ramasse. Quoi.
Ouais.
C'est quand même l'essentiel de...
À un moment donné, il y a un mec au bord de la ligne, il n'y a plus personne de l'autre côté.
Alors, il tape en touche, parce que nous disons, bon, ça... Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que le coup de la patate chaude, ça fait 20 ans en Europe qu'on se passe pas ça, mais maintenant c'est arrivé aux États.
Ouais. On a presque l'impression que... Enfin, c'est, évidemment, des taux d'intérêt négatifs, ça n'a aucun sens d'un point de vue de marché. C'est-à-dire que ça ne peut marcher que par la contrainte, finalement. En fait, les banques commerciales sont légalement obligées d'acheter les obligations. C'est pour ça que ça tient. Mais finalement, si on est dans un monde aussi logique, pourquoi ne pas imaginer que ça pourrait arriver de nouveau, par exemple?
Rien du tout. Mais ça arrive en ce moment. Tiens, j'ai reçu des clients hollandais là dans ma activité réelle, là, pas dans celle de... vous savez, les obligations hollandaises donnent à peu près du 2%.
Ouais.
Ben, ils ont mis un impôt de 2% sur le capital pour les Hollandais.
Donc ça ne va pas aller bien loin, forcément.
Donc ça veut dire que le type, il touche zéro, quoi.
Oui.
Et, enfin, il prend l'inflation, quoi. Donc, ben... Ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, personne ne veut mettre ça, et donc les Hollandais se sont précipités sur l'immobilier, qui est devenu absolument hors de prix, ce qui crée des problèmes massifs en Hollande, parce que personne ne veut louer à des gens qui ne peuvent pas payer, et tout le monde... Donc, à chaque fois, c'est vraiment le truc, vous filez le bébé à quelqu'un d'autre, mais à ce moment-là, l'autre se dit, mais pourquoi moi? Et donc, si vous voulez... Quand vous intervenez dans les marchés pour en fausser, par exemple, vous bloquez les loyers, bon, mais ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir une pénurie d'appartements, quoi. Donc, il y a toujours ce qu'on ne voit pas. Et ça fait des années qu'on nous cache des trucs, et ben, on est arrivé aujourd'hui, ce que j'ai essayé de discuter avec Emmanuel ce matin, d'ailleurs, c'était maintenant, le dernier qui porte le haut du bain, c'est les États. Et il y a trois États qui sont en danger grave, c'est la France, qui a un taux de change fixe, l'Angleterre et les États-Unis qui ont des taux de change variables. Donc, ils peuvent écrouler leur taux de change. Nous, on ne peut pas.
Oui. Oui, bah d'ailleurs, c'est un petit peu la stratégie qu'ils sont en train de mettre en place. Ils sont en train de sacrifier le dollar pour tout le reste.
En se disant, bah, c'est au moins comme ça, on va stimuler nos entrepreneurs, et les entrepreneurs d'en face qui vendaient chez nous, ils ne vont pas gagner.
Oui.
Mais on vous rendez compte qu'il y a ces manipulations par des gens incompétents de variables économiques absolument essentielles amènent toujours à des désastres. Et quand le désastre a lieu, on vous dit, fièrement, vous voyez bien que le capitalisme ne marche pas. Ce qui ne marche pas, c'est l'intervention. Par exemple, la crise de 2008-2009, ça a été fait simplement par ce crétin de Bernanke qui voulait maintenir les taux bas, quoi, voilà. Donc, foutez la paix au marché, laissez les gens se dépatouiller tout seuls. Occupez-vous de la police, de l'armée, de la justice, ça sera intéressant.
Oui.
Mais cessez de vous occuper de l'économie. Qu'est-ce qui a dit que l'État était compétent pour s'occuper d'économie?
Pas l'histoire, en tout cas, et certainement pas l'État français, parce que parfois, peut-être, on peut avoir des moments extrêmement précis dans l'histoire. On a des gens qui sont extrêmement compétents, qui viennent d'un domaine peut-être entrepreneurial d'ailleurs, qui servent l'administration et qui savent à peu près ce qu'ils font.
Et qui font des politiques à 30 ans, comme par exemple pour l'énergie. Alors ça, je comprends. Mais on a bien vu que ces gens qui étaient compétents sous De Gaulle, les Delouvrier, les Guillaumin, ont été remplacés par une série de gars qui n'ont eu qu'une idée, c'était de ruiner l'indépendance énergétique française pour gagner du fric en vendant des petits morceaux à la découpe. Quoi. Donc, si vous faites l'hypothèse qu'il y a eu un État compétent à un moment, c'était plutôt une exception.
Oui, bien sûr.
C'est qu'il s'est passé quelque chose, c'était des gars qui avaient connu la guerre de 40, qui avaient perdu, qui s'en étaient parmi. Bon. Mais aujourd'hui, à qui vous allez confier l'État stratège? À Jean-Philippe Tinguy? Non, mais j'ai rien contre, c'est un charmant garçon, mais je veux dire... lui, c'est ce qu'il voudrait faire, mais je veux dire,
oui, je sais pas s'il a une supervision stratégique pour Brandt. Ouais, et non, je pense pas à 30 ans. Non.
Brandt, le gouvernement ne devrait même pas s'en occuper. Quoi.
Ouais.
Ça ne regarde pas le gouvernement. C'est une affaire 700 employés.
Ouais. Ça, on en parle parce que c'est les 700 derniers. Parce qu'en réalité,
ils devaient être 10 000 il y a 30 ans.
C'est ça. Ils étaient plusieurs milliers il y a quelques décennies. Des 700 qui se sont barrés, il y en a eu un paquet. Et là, comme juste c'est les 700 derniers, on se dit, oh, il faut juste faire maintenir l'existence de la marque jusqu'au dernier employé qu'il faudra subventionner.
Il y a bien des gens qui ont dû faire faillite en faisant des diligences, non?
Oui, bah oui, évidemment.
Je suis sûr qu'il y avait une marge de diligence tout à fait remarquable.
Oui, les meilleures diligences.
Les meilleures diligences, qui avaient une position mondiale.
Sans doute, oui.
Donc, c'est ce que je dis. Ce sont des crétins qui regardent, qui avancent dans le futur, le derrière fermement en avant, quoi.
C'est ça. Je crois qu'on peut conclure cette émission là-dessus. au passage, d'ailleurs, c'est la dernière émission de l'IDL avant la reprise.
Et si vous avez souffré de ce qu'on appelle des symptômes de pénurie, n'hésitez surtout pas à acheter le dernier dans lequel on vous parle pour une fois, non pas de ce qui se passe entre le boulevard Saint-Germain et l'Élysée, qui est quand même un truc passionnant, il y a quand même 250 000 journalistes qui parlent que de ça, mais de ce qui se passe dans le monde et pourquoi le monde qui vient va être un monde au poil, rigolo, libre. Et que c'est pas de chance si on est en France, mais que en tant que Français, on peut aller y participer comme on veut, parce que ça va être un monde ouvert. Donc, contrairement à ce que racontent les gens, le futur va être très marrant.
Absolument. Donc, Les Mondes de Demain, c'est disponible sur le site des éditions Pierre de Taillac, c'est disponible aussi sur la Fnac, sur Amazon. Vous pouvez certainement le commander chez votre libraire. Voilà, petit cadeau de dernière minute pour Noël, ça peut
et
faire plaisir.
Et je ne touche pas un sou dessus, parce que tous les droits d'auteur, depuis le début de ces aventures, je les donne à l'Institut des Libertés. Donc en particulier, ils ont servi pendant un grand moment à payer ce garçon hors de
prix. Et moi.
Ben, c'était pas mal, hein, je veux dire. C'était voilà. Donc c'est une fois pour toutes... Je ne gagnerai pas ou pas, presque pas d'argent ou très peu sur l'Institut des Libertés.
Voilà, absolument. Et Les Mondes de Demain, c'est disponible là-dessus. Également, c'est de vous faire avoir.
Oui, c'est un peu la suite. Hein.
Voilà, c'est surtout la suite du précédent encore. Et donc voilà. Donc je vous souhaite à tous un très joyeux Noël, de bonnes fêtes de fin d'année, un très joyeux Noël, un joyeux Nouvel An aussi, un joyeux Réveillon.
Et n'oubliez pas que Noël, hein, Noël, c'est... C'est une fête chrétienne. Donc oui, vous dites joyeux Noël, vous dites pas joyeuse fête de fin d'année, hein, pas de
oui.
Bug. Hein.
Oui, j'ai dit les deux parce que voilà, mais bon, joyeux Noël quand même, c'est le plus important.
Joyeux Joël.
Voilà, et bonne année.
Et bonne année.
On vous retrouve début janvier le plus vite possible. Merci à tous. Merci et bonnes vacances. Fois.